cherche une pendule, mais il n'y a pas de pendule. Qui fait la pendule? Voilà. Bonjour à tous. Je suis passé à Grasse il y a, je pense, plus de 10 ans. Il y en a peut-être, je ne sais pas s'il y avait déjà des gens qui étaient encore ici. En tout cas, c'est, je me souviens d'un culte ici. Et puis il y a 2-3 ans, j'étais passé, mais je n'avais pas assisté à un culte, il y avait juste... Ah, il faut remonter le micro. Voilà. On a le même à Uzès, c'est exactement les mêmes problèmes, donc je ne conseille pas ce genre de matériel, mais je veux bien croire que ça marche. Voilà, en tout cas, oui, c'est un plaisir de me retrouver là encore ce matin. Peut-être juste quelques mots de présentation. Donc Pierre Barito, je viens de Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard. J'ai une femme qui s'appelle Alison, j'ai 2 filles et une petite fille. Voilà, et ça change la vie, une petite fille, hein, il y a quelques grands-parents là. Mais voilà, donc Natalia, donc Léa et Nico, son mari, sont installés à Lyon. Ils ont fait 1 an à l'IBG, ils sont impliqués donc dans une église à Lyon. Et puis ma deuxième fille, Sarah, 23 ans, elle a fait un master en traduction et elle habite Milan. Elle va se marier à la fin du mois de mai. Et ils vont aller habiter en Angleterre. C'est très simple. Voilà. Et donc, moi, je suis secrétaire général donc, des communautés Assemblées évangéliques de France. Mon travail, c'est d'apporter un soutien, en tout cas, aux assemblées, suivi des ministères. On en a de plus en plus dans l'Église. Et puis, d'animer aussi la commission de service avec tous les différents travaux qu'on peut suivre. J'ai été particulièrement réjoui de la journée qu'on a passée hier. 2 fois par an, dans le sud-est, on a une pastorale. Et puis, on a décidé, là, il y a quelque temps maintenant, d'en faire un lieu de formation. Et on était 60 encore hier, pour les 18 églises qui sont concernées. Ça va de L'Oriole jusqu'à Nice, Montpellier. Donc, on a 18 CAF, là, dans le coin. On était 60 hier. Et j'apprécie beaucoup la bonne ambiance, voilà, qui règne entre nous, et la joie qu'on a à se retrouver pour des journées comme ça. Et évidemment, le prochain événement qu'on organise, c'est notre congrès national, donc aura lieu cette année à Vichy, 18, 19, 20 mai. Et on a ouvert cette année aux jeunes à partir de 16 ans, parce que c'est les 20 ans de notre association de jeunesse, AJC, Association Jeunesse Chrétienne. Et donc, on a ouvert le congrès à partir de 16 ans. Alors, c'est pas un Made in France, hein, ça va pas être un rassemblement de jeunes, ça reste notre congrès d'église, mais voilà, les jeunes à partir de 16 ans qui sont engagés avec le Seigneur et voilà, qui veulent vivre quelque chose au niveau, à l'échelon national, ça sera une bonne occasion pour eux. On aura un programme aussi qui leur sera spécifique les après-midi, et puis pour qui ça veut dire quelque chose, il y aura un concert d'Antidote le samedi soir. Toutes les informations sont sur le site des CAF, en tout cas. C'est un événement aussi qui montre ce qui se passe au niveau national. Et en tout cas, moi, ça m'encourage beaucoup de voir tous les frères et sœurs qui se rassemblent et puis les projets qu'on porte ensemble, que ce soit la mission, mais aussi ce qui se passe en France, les projets d'implantation d'église. On veut mettre l'accent sur l'implantation d'église. On a une demi-douzaine de projets d'implantation d'église, vraiment nouvelles églises avec des équipes pionnières. Et puis, on veut mettre l'accent aussi sur la formation, aussi bien des anciens que des gens qui veulent partir en institut, mettre vraiment du temps à part pour la formation. On a entre 25 et 30 étudiants qui sont en institut chaque année, juste au sein des CAF. Donc ça, c'est vraiment des encouragements. Donc si vous pouvez mettre à part ces 3 jours, vous êtes vraiment les bienvenus pour participer à ce congrès. Je voudrais lire avec vous ce matin la conclusion de l'évangile de Jean. Alors, je crois que vous faites l'évangile de Jean, mais ça sera intéressant de lire l'évangile de Jean en pensant peut-être à ce que je vais vous dire ce matin, parce que je crois qu'il y a ce dernier chapitre de l'évangile de Jean peut poser des problèmes, mais aussi nous donner vraiment des perspectives. En fait, il y a 2 conclusions dans l'évangile de Jean. Il y a la fin du chapitre 20. Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. C'est bien comme conclusion, c'est, voilà, tout est dit. Et pourtant, il repart au chapitre 21, et d'ailleurs, bon, les critiques modernes ont voulu voir dans ce chapitre 21 un rajout. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails grammaticaux et d'authentification des textes, mais il n'y a pas de souci quant à la véracité du chapitre 21. Mais c'est quand même un rajout, et je me suis posé la question, pourquoi y a-t-il besoin de Jean 21? C'est peut-être pas des questions que vous vous posez quand vous lisez la Bible, mais vous allez comprendre. Pourquoi est-ce qu'il faut que sept disciples, et en particulier Pierre, vivent cette expérience de Jean 21? Et je crois qu'il y a, il y a là des leçons qui sont utiles aussi pour nous et pour notre relation avec Dieu et notre service pour le Maître. Alors on va lire les 13-14 premiers versets du chapitre 21 de Jean. Quelque temps après, Jésus se montra encore à ses disciples sur les bords du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances. Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher. » Nous aussi, nous y allons avec toi, lui dirent-ils. Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà, le jour commençait à se lever. Et voici, Jésus se tenait debout sur le rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela. « Hé, les enfants !» C'est le texte, hein, je lis dans la Semeur. « Avez-vous pris du poisson ?»« Rien !» répondirent-ils. « Jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il alors, et vous en trouverez. » Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter tellement il y avait de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur !» En entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, la remit et se jeta à l'eau. Les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau en remorquant le filet plein de poissons, car ils n'étaient qu'à une centaine de mètres du rivage. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta dans le bateau, tira le filet à terre, il était rempli de 153 gros poissons, et malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. « Venez manger, leur dit Jésus. » Aucun des disciples n'osa lui demander « Qui es-tu ?» Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur distribua, puis il fit de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples après sa résurrection. Il faut qu'on se mette dans la peau de Pierre pour essayer de comprendre ce qui se passe sur cette plage. Je dis que c'est lundi matin. Souvent le lundi matin, c'est un peu dur, la reprise. Hein. Il y a tellement de... Ce passage fait tellement écho à d'autres passages, à d'autres situations que les disciples ont vécues avec Jésus. Ça fait quand même 3 ans qu'ils ont passé avec lui. Il y a eu une pêche miraculeuse au début du ministère de Jésus, dans Luc 5. On verra qu'il y a des similitudes, mais aussi des différences notoires. Mais il est dit ici que c'est la troisième apparition de Jésus aux disciples. Alors c'est intéressant déjà de prendre cet angle-là et de se dire qu'est-ce qui s'est passé en termes d'apparition depuis la résurrection de Jésus. Tu as lu ce matin le passage, les femmes qui arrivent au tombeau. Première témoin de la résurrection, Marie de Magdala, l'autre Marie. Et puis, quand elles viennent dire ça aux disciples, quelle est la réaction des disciples? Ouais, je pense que vous n'avez pas pris vos pilules, ou vous avez mal dormi, mais en tout cas, c'est pas possible. Dans cette première rencontre, Jésus leur dit, allez dire à mes frères qu'ils se rendent en Galilée, et c'est là qu'ils me verront. Donc les femmes vont dire ça aux disciples, et ceux-ci trouvèrent leurs propos absurdes et n'y ajoutèrent pas de foi. La résurrection, ce n'est pas acquis hein, pour les disciples. Ça a été annoncé, ils ont vu la crucifixion, on sait ce qui s'est passé, mais lorsque les femmes vont leur dire « il est ressuscité », les gars, ils ne sautent pas au plafond en disant « ouais, c'est ce qu'il avait écrit, c'est ce qu'il nous avait dit ». Ils trouvent leurs propos absurdes et n'y ajoutèrent pas de foi. Pierre et Jean ensuite vont au tombeau. On lit dans Luc qu'ils étaient très étonnés de ce qui s'était passé. C'est la tempête dans la tête. Quand tu vois le tombeau vide. L'autre disciple, il est dit, Jean vit et il crut. Ensuite, il va y avoir l'épisode des deux disciples d'Emmaüs, mais lorsque les deux disciples d'Emmaüs reviennent à Jérusalem, on lit que les disciples lui disent « il est apparu à Pierre ». Donc il semble bien que Jésus se soit montré seul à Simon-Pierre. Et puis donc les deux fameux disciples d'Emmaüs, qui ne le reconnaissent pas tout de suite, qui le reconnaissent à la fin, okay, et qui vont le dire aux disciples qui ne les crurent pas non plus. Dans Marc 16, verset 13. Et puis, il y a les apparitions de Jésus à Jérusalem, quand ils sont enfermés dans la pièce à double tour, une fois sans Marc et une fois avec Marc. Jésus leur reproche leur incrédulité et leur aveuglement, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Ils avaient peur. Et puis donc, apparition avec Thomas. Et alors c'est là que je vous propose de mettre, suite à ces deux apparitions aux 12, le rendez-vous en Galilée. Donc là, jusque-là, on est à Jérusalem. Jean 21 se passe sur le lac de Galilée, c'est appelé Génézareth, tout ça c'est la même chose. Un lac qui fait 20 km sur 10 à 100 km au nord de Jérusalem. C'est là que s'est passé aussi Luc chapitre 5. Et donc sur cette montagne, et c'est peut-être lorsque Paul parle qu'il s'est révélé à 500 disciples à la fois, que les 11 sont réunis avec cette foule, ils ont encore des doutes, et c'est là que Jésus leur dit « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et donc ils sont là-haut sur la montagne avec Jésus qui leur dit. Et là encore, réfléchissons à cette mission qui est donnée à un Pierre. Pierre, il a touché le fond, il y a, alors je ne sais pas, quelques semaines auparavant maintenant, lorsqu'il a renié trois fois le Seigneur. Lui qui avait dit, peut-être les autres, moi jamais. On connaît Pierre. Dans son enthousiasme, dans sa ferveur, dans son zèle, dans ses mots, il ne mentait pas, Pierre, hein, quand il a dit « moi, jamais ». Il était convaincu qu'il pouvait le faire. Et là, Jésus leur dit « voilà, moi, j'ai terminé ma mission, je vais vous quitter. Et vous, vous allez aller et vous allez faire du monde entier, dans le monde entier, des disciples. » Et là, c'est là que j'imagine que Pierre, il descend de la montagne, et en bas de la montagne, il y a le lac de Galilée. Et il passe devant l'abri à bateau qu'il a laissé à la fin de Luc 5, quand il a dit ciao à ses associés et au père, à la famille de Zébédée, qui a dit, ça y est, c'est bon, moi je suis pêcheur d'hommes, j'ai trouvé un gars, vous avez vu comment il remplit les filets? Ça va être super excitant. Et il repasse devant son bateau qui est là, ça fait 3 ans qu'il est resté accroché là sur la plage, les filets. Et puis dans sa tête, il y a tout le film de ce qui s'est passé ces derniers jours. Et il dit à ses copains, moi je vais pêcher. C'est pas possible. Jésus s'est trompé de casting. Je vais pêcher. Et c'est là que je place donc Jean 21. Avant que finalement Jésus apparaisse encore à Béthanie, cette fois-ci, à 1,5 km de Jérusalem, pour être enlevé au ciel devant leurs yeux. Pourquoi est-ce que Pierre doit encore passer par cet épisode de Jean 21. Il faut qu'il apprenne une leçon avant de pouvoir être réinstauré dans un service fructueux pour le Seigneur. Ça fait quand même 3 ans qu'ils sont avec lui. Ça fait 3 ans qu'ils ont vécu des expériences fortes avec lui. Et ils ont vu le Seigneur ressuscité. D'ailleurs, c'est ça qui est paradoxal, hein, quand vous lisez les histoires de la résurrection, même les disciples d'Emmaüs. Là, notre cœur ne brûlait-il pas à l'intérieur de nous quand il nous expliquait les Écritures? Thomas, qui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mais on peut comprendre, hein, ces hommes qui sont à la fois témoins d'un événement extraordinaire et qui se disent « Est-ce que je rêve? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que... Comment est-ce possible? » Ce n'est pas évident pour eux, pour leur humanité, dans leur humanité. Et Pierre, tout Pierre qu'il est, il est absolument découragé. Il doit vivre une certaine dose de culpabilité, hein. On le saurait à moins. Après s'être engagé si fort pour le Seigneur, et après l'avoir renié si fort 3 fois de suite... Et il se retrouve sur ce bateau, à pêcher toute la nuit, avec peut-être aussi cette parole qui lui revient à l'esprit, « Tu seras pêcheur d'hommes ». Et tu es là sur ton filet, à gauche, hein. À gauche, c'est très important, à gauche. Et tu es là à ton filet, allez, on essaye encore une fois, les gars. Allez, persévérance, c'est un meneur, Pierre. Vous savez, c'est l'énergie du désespoir. Il sait qu'il n'est pas à sa place. Il sait qu'il désobéit. Mais je suis tellement mauvais. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Mais dans ton désespoir, tu t'acharnes et tu continues. Et toute la nuit. On ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir été persévérant. Et puis voilà, il y a Jésus qui est là. Alors Jésus, à la différence de Luc 5, il n'est pas dans le bateau. Maintenant, il faut qu'ils apprennent à se débrouiller tout seuls, les gars. Et puis, il pose cette question qu'on ne veut pas entendre. Hein. Jésus sait très bien, Jésus sait très bien. Alors, ça marche, les affaires? Alors, le petit sourire, c'est moi qui l'ai, parce que Jésus n'a pas le petit sourire. Il ne se moque pas, Jésus. Les enfants, n'avez-vous rien attrapé? Ça dépend des traductions que vous lisez. Et les gars, ils retournent le bateau, ils cherchent la demi-sardine qui pourrait leur éviter le constat. Il n'y a rien. Vous savez, c'est les mêmes questions que Jésus pose quand il joue à cache-cache avec Adam et Ève. Vous voyez le passage là dans Genèse 3, hein, ils sont dans la forêt. Ça, c'est même pas parole vivante, hein, c'est... Même dans la seconde, ça le dit comme ça, quoi. Et ils se cachent, parce qu'ils ont honte, parce qu'ils sont nus. Et Jésus, le soir, Dieu, le soir, appelle Adam. Où es-tu? C'est extraordinaire comme scène, comme mise en scène. Le Créateur, alors que pendant des années, ils ont vécu une relation face à face qui parlait d'un seul coup, la créature pense qu'en se cachant derrière un arbre, il va pouvoir régler le problème de sa honte à cause de sa désobéissance. Et Dieu lui dit, où es-tu? Voilà, bon, moi je me mets à la place de Dieu, j'arrive derrière Adam sans faire de bruit. Ah! Non mais attends, on ne joue pas à cache-cache avec Dieu, quoi. Et vous savez, ces questions où on est obligé de dire, j'ai eu peur, je me suis caché parce que je suis nu. Et c'est la même chose ici, quand Jésus pose cette question, et il nous pose ces questions difficiles, et honnêtement, quand tu vois que les bateaux, les poissons sont à droite, il faut arrêter, quoi. Toute la nuit, je n'ai jamais fait de pêche au filet. Alors, il y en a qui expliquent qu'il y a une faille dans le lac de Génézareth, et que, voilà, il y a des cours. Attendez, les gars, toute la nuit, ce n'est pas un paquebot, c'est une barque. Toute la nuit, tu as les poissons, le filet à gauche, et les gars, il faut arrêter, quoi. Même pas un poisson. Donc, pendant toute la nuit, Jésus a empêché les poissons d'aller dans le filet. Et quand Jésus leur dit, ça c'est extraordinaire aussi, hein, vous vous êtes trompés de côté les gars, mettez le poisson. Vous savez, ça c'est les choses que tu fais quand tu es tellement désespéré, ton cerveau il marche tellement plus que tu fais à peu près n'importe quoi. C'est dans Luc 5, quand Jésus leur dit, jetez les filets. Pierre, il dit, attends, écoute, on a pêché toute la nuit, hein, toi, tu connais rien en matière de... T'es charpentier, ok, donc tu vas rester tranquille. Il râle. Là, il y a vraiment, ça, c'est un miracle dans ce passage aussi, c'est que Pierre ne dit rien. Et bêtement, moi, je vois les gars, bêtement, il prend le filet et il le met de l'autre côté. Ça me rappelle l'école de physique avec un prof que j'avais en mécanique quantique. Il s'appelait Gandhi, le gars, et c'était un gars d'ancienne école, quoi. On était 150 dans l'amphi, des mecs, quoi. Et on avait une trouille terrible de Gandhi. Quand il claquait la porte, il n'y avait plus un bruit dans l'amphi. Et vas-y, que je t'envoie les tableaux. Et tu passais des cols avec Gandhi. Et rien que de voir ton nom, parce qu'il y avait plusieurs profs qui faisaient passer les cols, et quand tu avais la colle avec Gandhi, tu transpirais rien qu'à voir ton nom sur la feuille. Je me souviens d'une colle avec Gandhi en mécanique quantique. Et je suis seul dans son bureau avec lui. Et je suis vraiment liquéfié, quoi. Et il me pose une question. Et je commence à écrire sur le tableau. Et le gars, il me dit, Barito, commencez plus haut. Alors, je me dis dans ma tête, je suis grand, quoi. Je veux dire, je vais commencer en haut du tableau. Hein. Alors j'efface et je réécris la même chose à 1,5 cm plus haut. Je ne comprends plus. Le gars, je suis tellement... J'ai tellement peur, en fait, que je ne comprends pas qu'il veut me dire, bah, commence la démonstration plus haut. Et je crois qu'ils en sont là, les gars. Ils sont dans ces moments où on est prêt à peu près à faire n'importe quoi. On est en mode survie. Et ils le font. Et ils lancent le filet. Et là, il y a des poissons. Alors, dans Luc 5, quand Pierre est confronté à la gloire de Jésus, la gloire de Dieu dans le bateau. Sa réaction, c'est quoi? Arrière de moi, car je suis un homme pécheur. Et là, c'est quoi la réaction de Pierre dans Jean 21? Je veux dire, s'il y a un moment où tu te sens mal, c'est quand même Jean 21. Moi, j'aurais compris le syndrome de Jonas, tu vois. Tu pars en courant, enfin dans un bateau. Quand Jean lui dit « C'est le Seigneur », qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Il se jette à l'eau et il va vers Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'expliquer cette attitude de Pierre. Qu'est-ce qui explique cette attitude? Et Pierre ne dit toujours rien. Silence. Pierre est maintenant convaincu. Il a appris, par cette nuit d'échec encore, que tout ce qu'il va faire, avec sa propre énergie, avec ce qu'il sait faire, avec ses capacités, avec ses compétences, avec son découragement, avec son ressentiment, avec toute la mauvaise pensée qu'il peut avoir sur lui, tout ça est voué à l'échec. Tout ça, ça ne sert à rien. Et Jésus a mis en scène cette nuit de pêche vaine pour que Pierre arrive à comprendre finalement que tout ce qu'il va entreprendre avec ses propres forces est inutile. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où Pierre a renié le Seigneur trois fois et les apparitions de Jésus? Il faut aller dans Luc. Il y a cette scène encore qu'il faut voir où Jésus est emmené avec les soldats. Et Pierre, il y a marqué « suis de loin ». Luc 22, 54. Au moment où Jésus a peut-être le plus besoin d'être entouré de ses amis, Pierre met de la distance. Il suit de loin. Et Jésus lui a dit, avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. Et Pierre, trois fois, il a dit, je ne connais pas, vraiment, vous racontez n'importe quoi, je n'ai jamais vu. Hein. C'est pas parce qu'on a le même accent qu'on a été à l'école ensemble, hein, vraiment. Voilà. Trois fois de suite. Le coq a chanté. Et Jésus et Pierre suit de loin. Et puis, le verset 61, il y a marqué, le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et il faut réfléchir à ce qui s'est passé sur ce regard entre Jésus et Pierre, qui suit de loin et qui vient de le renier trois fois. Jésus a déjà posé son regard sur Pierre au début de l'évangile de Luc, quand il l'a choisi comme disciple. Mais là, il pose un regard. Et suite à ce regard, verset 62, Pierre pleura amèrement. Je crois que le secret, il est dans ce regard. Si c'est un regard de condamnation, vous savez, en tant que parent, alors je suis grand-parent maintenant, donc ça va, on change en tant que grand-parent, on avait cette conversation ce matin, un petit déjeuner, mais quand on est grand-parent, on passe à peu près tout à ses petits-enfants, hein, on se surprend nous-mêmes. Ou alors on a été dur avec nos enfants, avec sa petite-fille, donc elle a le droit à peu près de faire tout ce qu'elle veut. Et ce n'est pas notre problème. Mais on est tellement, vous savez, c'est tellement facile de condamner quelqu'un d'un regard. Il n'y a même pas besoin de dire un mot, tu vois. Tu le regardes. Ben, voilà, quoi, t'es bon à ça. C'est terrible, hein. Comment on peut finalement faire passer dans un regard des choses négatives. Mais ce n'est pas ça qui passe dans le regard de Jésus. Sinon, Pierre ne se serait pas jeté à l'eau pour aller vers Jésus. Ça me fait penser au regard que Jésus a eu envers ce jeune homme riche qui est venu le trouver, vous savez, là, et qui voulait vraiment faire quelque chose pour Jésus, hein, le bon gars. Et Jésus, il met la balle tellement haute que finalement, il va retourner à ses affaires, qui étaient certainement prospères. Mais il y a marqué dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, verset 21, que Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et je crois qu'il faut qu'on laisse Jésus nous regarder. On a peut-être reçu des regards de condamnation dans notre éducation, de nos parents, de personnes de qui on espérait autre chose. Et peut-être de nous-mêmes. Je crois que Pierre, à ce moment-là, quand il se regarde, peut-être même qu'il ose plus regarder, tellement il n'est pas digne à cause de ce qu'il a fait. Et c'est des faits, c'est objectif. Mais le regard que Jésus va poser sur lui va le transformer. Parce que c'est un regard d'amour. C'est un regard qui restaure. C'est un regard que Jésus pose sur Pierre après sa crucifixion. Si aujourd'hui, Pierre, moi, vous, pouvons être restaurés, non seulement dans notre relation avec Dieu, mais dans notre service pour lui, c'est parce qu'il est mort. Ce qui me rend digne, c'est sa justice. Ce qui me rend acceptable aux yeux de Dieu, c'est le sacrifice de l'innocent. Et je crois que dans ce regard que Jésus pose sur nous, ce regard d'amour, ce n'est pas un regard qui dit « c'est pas grave ». C'est un regard qui dit « j'ai payé ». Tu es acquitté, tu es restauré. Et si je l'ai fait, c'est parce que je t'aime, parce que tu as de la valeur à mes yeux. Et je crois qu'il y a tout ça qui est passé dans ce regard de Pierre vers Jésus. Malgré tout, Pierre, il est retourné à la pêche encore. Et Jésus aurait pu dire, bon, c'est bon maintenant, je t'avais laissé encore une chance. Et non, et Jésus va remettre en scène cette pêche miraculeuse. Jusqu'au moment où Pierre, il dit, même ce que je savais faire avant, ça marche plus. Je crois que s'il y avait eu une sardine dans le filet, Pierre, il remettait les criteaux, Pierre & Co, pêche en tout genre, et il repartait. Mais il n'était pas question, il fallait qu'il aille au bout. Et Jésus fait ça pour que Pierre comprenne que sans lui, il ne peut rien faire. Jean 15, il y a tellement de choses qu'on peut faire sans Jésus, n'est-ce pas? Malheureusement. Il y en a même qui disent que si le Saint-Esprit s'en allait de l'Église, 95% des activités continueraient comme avant. Je ne sais pas comment tu mesures ce changement avec des pourcentages. Mais bon, c'est inquiétant si c'est vrai. Mais il y a tellement de choses qu'on peut faire sans Jésus, finalement. Et Jésus, vous voyez, met ses circonstances dans nos vies pour nous faire réaliser à quel point nous avons besoin de dépendre de lui. Et c'est la suite du passage qui nous révèle cela. La dernière fois que Jésus s'est réchauffé, que Pierre s'est réchauffé auprès d'un feu de braise, c'était quand? C'était quand il était avec ses servantes dans cette cour en train de renier le Seigneur. C'est lourd, hein, quand même, hein? Il aurait mieux être, je sais pas, autre chose, quoi. Mais non, viens te chauffer. Mais tu vois, te chauffer auprès d'un feu quand je suis pas là. Maintenant, tu sais où ça mène. Aller à la pêche, quand c'est pas moi qui dis « jette le filet », t'as compris que ça sert à rien. Et là, Jésus va réinstaurer Pierre. Vous avez vu que sur le barbecue, il y a déjà du poisson et du pain. Et Jésus va dire à Pierre « amenez des poissons que vous venez de prendre ». Alors ça, c'est trop fort. Amenez des poissons que vous venez de prendre. Et voyez, ça, c'est le service avec le Seigneur. Les apôtres, ils vont dire, attends, c'est pas nous. Et on sait très bien que c'est pas nous. Et pourtant, Jésus le met à notre crédit. Et ça, c'est le service pour le Seigneur. C'est l'œuvre de Dieu qui nous utilise dans nos incapacités. Il remplit lui-même notre filet. Et après, alors qu'il y a déjà tout ce qu'il faut, il dit « amenez des poissons que vous venez de prendre ». Et comment est-ce que les disciples ne peuvent pas revivre leur « donnez-leur vous-même à manger » Pain, poisson, ce feu de braise, cette pêche miraculeuse. Voyez combien Jésus leur fait revivre toutes ces choses pour qu'ils comprennent. Et Pierre comprend très bien quand il se jette à l'eau et qu'il ne dit rien. Ce qui fait que notre service porte du fruit, c'est notre communion avec le Seigneur. Et le Seigneur va leur dire, venez manger. Ça, c'est notre Dieu, hein, qui nous donne la provision pour nous soutenir. Et c'est évidemment une provision spirituelle. Venez manger. Venez manger. Et Pierre va comprendre cela. Et quand tu lis la suite de l'histoire, le livre des Actes, les épîtres de Pierre. Tu te rends compte combien Pierre a intégré que le plus important, c'est sa relation avec le Seigneur. Et il a fallu qu'il aille au bout, alors peut-être à cause de son caractère, de sa personnalité, de qui il est, qu'il aille jusqu'à cette extrémité pour apprendre cette leçon. Et il va rester là auprès du Seigneur. On connaît la suite du chapitre, m'aimes-tu, paie mes brebis, prends soin de mes brebis. Et puis à la fin, qu'est-ce que Jésus lui dit ? Toi, suis-moi. Et c'est sur cette base-là que Jésus appelle Pierre. Vous savez, je crois que dans Luc 5, ça nous arrive aussi, je vous racontais mon témoignage, dans sa grâce, Dieu nous sauve. Qu'est-ce qu'on a compris le jour où nous avons été aspirés par la grâce de Dieu ? Est-ce que notre théologie, elle était exacte ? Même aujourd'hui, est-ce que notre théologie, elle est 100% exacte ? Est-ce que notre compréhension du sacrifice de Christ était parfaite ? Certainement pas. Est-ce que notre conviction de péché était parfaite ? Certainement pas. Et pourtant, Dieu nous déclare juste. Vous savez, c'est comme Abraham qui regarde le ciel, qui dit « Oh, il y a beaucoup d'étoiles, hein, je ne peux pas compter. » Et Dieu, à cause de ça, marque juste à côté de son nom. Et il rentre à la maison, il va coucher avec sa servante. Dieu nous aspire dans sa grâce. Et dans Luc 5, je vois dans la manière dont les disciples... Alors, je vais plus loin que le texte, je suis d'accord. Je vois dans la manière dont les disciples suivent le Seigneur, ah ben là, on a trouvé un bon filon, quoi. Allez, oui, j'abandonne. Je laisse mes affaires pour suivre Jésus. Ouais, mais il y a un peu trop de jeu, là, dans cet engagement. Et il va falloir passer par cette crise. Et je crois que ce n'est pas une crise unique, d'ailleurs. Nous passons par ces moments où nous sommes au fond et où peut-être on ne comprend pas pourquoi le Seigneur nous fait passer par là. Mais il est en train de nous apprendre cette leçon indispensable que sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais que par lui, eh bien, avec lui, tout est possible. Le début du livre des Actes, moi ça me surprend énormément parce qu'on voit le Pierre nouveau devant la même foule de qui il avait peur quelques semaines auparavant. Il va tenir un discours d'une limpidité extraordinaire. Mais vous savez, quand dans Actes 3, lorsque à la porte du temple, il guérit ce paralysé. On va lui demander des comptes. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Et alors la réponse de Pierre, pourquoi fixez-vous avec tant d'insistance, comme si c'était nous qui, par notre propre pouvoir ou notre piété, avait fait marcher cet homme ? Vous savez, ça c'est énorme quand même. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un déjà ici qui a fait marcher un aveugle. Marcher un aveugle encore, ça va, je peux le faire. Mais marcher un infirme... Mais vous voyez, Pierre s'efface complètement derrière le Seigneur. Pourquoi vous, qu'est-ce qui s'est passé, les gars, là ? Bah oui, ça fait 40 ans qu'on le voit, là, infirme, il marche. Bah ouais, mais ça vous surprend ? Mais c'est le Seigneur. Vous voyez, il n'y a à aucun moment, Pierre va se mettre en avant. Puis ça va continuer. Hein. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi. De ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est grâce à lui que cet homme se tient là, debout, devant vous, en bonne santé. Un homme fiable, une femme, au service de Dieu, c'est quelqu'un qui va savoir, qui a appris que ses ressources dépendent de sa communion avec son maître. Pourquoi Jean 21 ? Et pourquoi il est là ? Pourquoi ce n'est pas Jean 20 ? Parce que je crois qu'il fallait vraiment de conclure cet évangile de cette manière. C'est ce qui a permis à Pierre de suivre le Seigneur. Il a été découragé, et je crois que le Seigneur a permis ce découragement. Il a dû confesser ce non, il n'y a rien dans le filet. Je vois comme une repentance le fait qu'il se jette à l'eau pour aller vers le Seigneur, un demi-tour. Il reconnaît que s'il veut nourrir d'autres, eh bien, il va falloir que ce soit Jésus qui remplisse son filet, même s'il est un instrument dans la chaîne du salut que le Seigneur met en place. Et puis, il va apprendre à vivre de sa communion avec le Seigneur. C'est sur cette base-là que Jésus envoie ses disciples. Et c'est sur cette base-là aussi qu'il nous envoie. Je crois qu'il faut que nous comprenions des fois dans les événements de nos vies, avoir la main du Seigneur qui veut nous affaiblir afin qu'il puisse grandir et mieux nous utiliser en nous donnant son énergie, sa vie, son caractère pour être ceux et celles qu'il veut que nous soyons ici-bas. Père, je reconnais à quel point il est facile d'œuvrer pour toi avec mes propres capacités, avec mon expérience, avec peut-être ce que je sais faire. Mais Seigneur, je te remercie aussi que malgré nos échecs, malgré nos découragements, malgré nos inconsistances, tu es celui qui nous rappelle constamment ta grâce et la toute suffisance dans ton sacrifice. Seigneur, merci parce que tu nous restaures, mais tu nous appelles et tu nous envoies. Et Seigneur, nous voulons apprendre à recevoir de toi ce que tu veux nous donner pour qu'à notre tour, nous puissions donner à ceux qui nous entourent. Seigneur, apprends-nous à dépendre de toi. Apprends-nous à découvrir comment nous pouvons vivre de toi, communier avec toi. Seigneur, je te prie que voilà, tu nous invites aussi ce matin à prendre part à ce repas sur la plage et à communier avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.